C'est une joie pour moi de vous retrouver après le mariage de Yaki et Jessica. Prions ensemble. Ouais. Merci Seigneur que Yaki, ta parole où nous pouvons retrouver la force, la sagesse, le réconfort. Yaki, ta parole où qui puisse nous aider de éclairer notre chemin. Que Seigneur, que je prie de bénir ce moment, soit avec nous tous, et que Saint-Esprit qui présente chacun l'Assemblée cet après-midi. Merci, je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Mon thème de cet après-midi, c'est être un chrétien au naître. Avant que je développe le texte, on vient le lire. Je vous rappelle, la lettre de Jacques n'est pas longue, seulement de 5 chapitres et 108 versets. Mais au moins 20 versets sont directement liés à la parole. Jacques a souligné que la foi sans les œuvres est morte. Mais nos paroles aussi ont autant d'importance que nos actes. Dans la lettre de Jacques, chapitre 3, versets 1 au 12, se trouve une discussion importante sur le thème de l'enseignement. Le discours n'est pas seulement lié au fait d'être un enseignant, mais il concerne aussi chacun chrétien, car nous parlons tous les jours. Dans notre explication pour entrer dans ce passage de cet après-midi, nous devons rappeler le thème précédent dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1. Dans Jacques, chapitre 3, verset 1, nous disons, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être les enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignant ici, ou le maître, est ce qu'on appelle le rabbi, qui enseigne la loi et les costumes religieux. Jacques demande au rabbi juif qui enseigne d'être prudent, parce que quand vous enseignez la parole de Dieu, que vous vous trompez, les gens vont se rendre compte que vous n'êtes pas à la hauteur. Par conséquent, les rabbis à l'époque de Jacques devraient parler avec prudence. Il en va de même pour les pasteurs dans leurs discours et leurs prédications et pour l'ensemble des chrétiens. Nous devons tous être prudents, car parfois les non-convertis sont exigeants vis-à-vis de nous. Car nous sommes les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Notre discours doit montrer que nous sommes chrétiens. C'est-à-dire que nous appartenons à Jésus-Christ. Soyez donc prudents dans notre discours. Cet après-midi, il y a seulement un verset, chapitre 12. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques parle à nouveau de ce sujet. Il déclare que le contenu de notre discours doit être authentique, hautement crédible, sans aucun mensonge. Le parler chrétien doit être honnête. Jacques a cité ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 33 au 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis que de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour nous, ce qu'on y ajoute vient du mal. Ce qu'on y ajoute vient de mal. Si nous comparons les déclarations de Jacques et Matthieu, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement de notre responsabilité envers les personnes. Mais si nous sommes malhonnêtes, nous serons jugés par Dieu. Il a cité le Jacques, chapitre 5, 12, « Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Matthieu 5, 37, « Ce qu'on y ajoute vient du malin, vient de Satan. » Ne trouvez-vous pas plutôt étrange que Jésus nous commande au verset 34 de ne pas jurer? Alors que maintenant, au verset 37, il semble nous demander de tout dire sous serment. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Double oui, double non. Que tout ce que vous affirmez soit fait sous serment. À quoi Jésus veut-il en venir exactement? À quoi Jésus veut-il en venir exactement? Nous avons vu précédemment qu'en disant « ne jurez point du tout », Jésus ne formulait pas un commandement absolu. Il s'agit plutôt d'une règle générale. Maintenant, il va approfondir son enseignement. Il nous dit « ne jurez pas du tout ». Mais que tout ce que vous dites soit dit comme si l'auriez fait sous serment. En d'autres mots, que toute parole qui sort de votre bouche soit aussi vraie que si vous l'aviez prononcée sous serment. Nous touchons ici au cœur de l'enseignement de Jésus. Ce passage porte sur l'authenticité de la vie du chrétien. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire que le chrétien doit faire en sorte que tout ce qu'il dit soit aussi fiable qu'une promesse faite sous serment. Lorsque le chrétien parle, il ne dit que la vérité. Toute la vérité est rien que la vérité. Chaque parole que vous dites doit être exprimée avec la même authenticité qu'une déclaration faite sous la foi d'un serment. Si vous comprenez bien ce principe, vous allez aussi reconnaître que la vérité vous lie à un engagement personnel de la même nature qu'une promesse faite sous serment. N'imaginez pas que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire quelque chose parce que cela n'a pas été dit sous serment. Le Seigneur Jésus nous enseigne que la vérité fait toujours appel à un engagement de notre part. Nous sommes liés par les obligations que la vérité nous impose. Car la vérité, tout comme le serment, nous oblige à respecter nos obligations. Ceci signifie que si une chose est vraie, vous êtes alors venu de la suivre et de l'exécuter. La Bible nous dit qu'il ne suffit pas de croire à la vérité. Il faut obéir à la vérité. Il ne suffit pas de croire à la vérité. Il faut aussi obéir à la vérité. Romains 2, 8 et Galates 5, 7 sont deux versets qui parlent d'obéir à la vérité. Si vous affirmez que vous êtes un disciple de Jésus, alors vous êtes dans l'obligation spirituelle d'obéir à la vérité que la parole de Dieu nous réveille. La loi prend racine dans la vérité, une vérité à laquelle on croit et qu'on obéit. À ce moment-là, lorsque Jésus a dit cela, il était en présence d'un groupe de pharisiens qui jouaient par leur supériorité et leur compréhension de la loi de Dieu afin de renforcer l'authenticité de leurs paroles. Mais les pharisiens commettaient une faute. Il déformait les dispositions de la loi. De quelle manière? Si une personne jure en pointant du doigt le ciel, la terre ou Jérusalem, ou même en mouvant sa propre tête, elle évite de jurer directement par le nom de Dieu. À l'époque de Jésus, on utilisait souvent le serment pour raconter des mensonges. Dans la culture juive, le serment s'appliquait à certaines choses qui devaient être faites et d'autres qui ne pouvaient pas être faites. Si vous jurez par le nom de Dieu, vous devez le faire, mais en pointant vers le ciel, vers le sol ou vers Jérusalem et votre propre tête, vous n'êtes pas obligé de tenir votre promesse. Essayez d'obtenir la confiance des autres de cette manière détournée n'est pas honnête. Si notre parole ne convainc pas les gens, il est alors inutile de jurer. Pour convaincre les gens de ce que nous disons, nous n'avons pas besoin de jurer. Nous devons simplement dire oui ou non. Les pharisiens pensaient qu'ils pouvaient ainsi échapper à la responsabilité de jurer. En fait, en pointant vers l'objet en jurant, et quel que soit cet objet, c'est vers Dieu qui le faisait, puisque toute la terre appartient à Dieu. Alors, peu importe ce que je jure, car je le jure devant Dieu. Jésus a souligné que les pharisiens jouaient de cette façon pour éviter d'assumer leur responsabilité et qu'ils voulaient juste protéger leur propre intérêt. Au chapitre 5, verset 12, Jacques met donc l'accent sur le fait que les gens doivent respecter leurs promesses. Aux yeux de Jésus, ces promesses ont vraiment tort. Leur pratique a déjà jugé et condamné, car mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. D'après le contexte, nous savons que la déclaration faite par Jésus ne porte pas sur l'acte de jurer, mais sur le fait que cet acte est le reflet de notre responsabilité et en particulier de notre honnêteté, et aussi sur l'intégrité avec laquelle nous traitons les autres. En tant que disciples de Jésus-Christ, tomberons-nous dans la même situation que les pharisiens? Si les gens ne vous font pas confiance, s'ils ne nous croient pas, qu'est-ce que nous allons faire? Si les gens ne nous font pas confiance, s'ils ne nous croient pas, qu'est-ce que nous allons faire? Beaucoup de personnes utilisent la technique du serment pour que les gens croient en eux. Ils disent, si vous ne me croyez pas en tant que personne, mais que je jure devant Dieu, avez-vous me croit? Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Puisque nous devons être vigilants en ce qui concerne l'honnêteté, nous devons y penser chaque fois que nous prenons la parole. Est-ce que je dis est vrai? Est-ce que notre parole comprend une part de mensonge? Psaume 24, verset 3 au 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeuse, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Nous devons reconnaître que nous n'atteignons pas cette perfection. Mais en même temps, on ne doit pas minimiser les exigences de Dieu. On ne doit pas minimiser les exigences de Dieu. Bon, c'est difficile. Implorons le Seigneur de nous aider à atteindre sa perfection. L'Ancien Testament nous parle de l'échec du roi Saül. La raison de son échec est qu'il n'a pas dit oui, oui et non, non. Lorsqu'il a parlé, il utilisait beaucoup de serments, mais il ne les mettait pas en pratique. Il a commis 3 erreurs en violant des serments. La première erreur est liée à un serment qui n'était pas réalisable. Dans 1 Samuel chapitre 14, 24, ce chapitre, Saül et son fils Jonathan ont conduit les Israélites à se battre contre les Philistins. Ils ont remporté une très grande victoire et l'ennemi s'est enfui loin. Mais Saül a donné un commandement déraisonnable à l'armée d'Israël. Il a dit au peuple de jurer ainsi. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Le fils de Saül, Jonathan, n'a pas entendu l'ordre. Lorsqu'il a vu du miel dans un pois, il en a mangé car il avait faim. Plus tard, Saül a découvert que Jonathan avait violé cet ordre et il a voulu le faire mourir. Mais sous la pression du peuple, Jonathan n'a pas été exécuté. Pour conclure, Saül a utilisé des paroles déraisonnables qui ont eu pour conséquence de diminuer son autorité. Le deuxième erreur que Saül a commise est de camoufler une faute. Dans 1 Samuel, chapitre 15, Saül s'est battu contre les Amalécites. Il a violé le commandement de Dieu et a conservé en vie les meilleures bêtes des troupeaux. Lorsque Samuel est venu vers lui, il a dit que ces choses devaient être sacrifiées à Dieu. Après que Samuel lui ait reproché sa faute, bien que Saül ait reconnu son erreur, il a rejeté la faute sur le peuple et a dit « Je craignais le peuple et je l'ai écouté. » Samuel a entendu Saül dire cela, puis il est reparti. Saül a essayé de retenir Samuel en rattrapant son manteau. Mais la réponse de Dieu a été très sévère et Dieu a déclaré qu'il enlèverait une autre personne pour remplacer Saül en tant que roi. Après que Saül l'ait entendu, il a quand même reconnu sa culpabilité, mais il a demandé à Samuel de honorer devant les anciens de mon peuple et devant Israël. En conclusion, Saül veut cacher sa faute. Il n'y a pas de véritable repentir, car il tient davantage à de ne pas perdre sa face, plutôt qu'à faire preuve d'honnêteté. Ceux qui plaident coupables et se repentent ne se soucient pas de perdre la face. Puisqu'on se préoccupe de sa propre image, et moins que qu'on se préoccupe de notre honnêteté spirituelle, car le plus important, c'est la manière dont Dieu nous voit. La troisième erreur commise par Saül est le fait qu'il a dit quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Il a dit quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. C'est grave, disons, frères et sœurs. Au chapitre 28, Saül est allé consulter une magicienne alors que Saül avait interdit au peuple de pratiquer la sorcellerie. Après la mort de Samuel, Saül a été attaqué par les Philistins il avait consulté Dieu, mais n'avait obtenu aucune réponse. C'est pourquoi il avait décidé de consulter cette femme. Il s'est déguisé pour aller la voir et il lui a promis qu'elle ne serait pas punie. Mais la sorcière a découvert que la personne qui la cherchait était Saül. Elle a dit, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » C'est ainsi que Saül a perdu toute sa crédibilité. Il a ensuite été tué par l'ennemi dans cette guerre. Saül était quelqu'un qui n'assumait pas ses responsabilités et qui ne tenait pas parole, sa parole. Et c'est ainsi qu'il a perdu sa confiance des autres. Pour obtenir ce qu'il voulait, il trahit Dieu et s'est trahi lui-même. Mes frères et sœurs, Dieu s'attend à ce que nous soyons honnêtes. Dieu s'attend à ce que nous soyons honnêtes. Psaume 51, 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître ta sagesse, la sagesse dans le secret de mon être. Proverbe 20, 23. Deux poids différents font horreur à l'Éternel, et la balance faussée n'est pas une bonne chose. Proverbe 20, 13. Les rois sont favorables aux lèvres justes et il aime celui qui parle avec droiture. Des théologiens et des philosophes reformuler. Les théologiens et des philosophes. Tels que Augustin, Saint Thomas, d'Aquin. Oh là là. Et Kant, c'est ça, Kant ou Ken. Kant. Ont déterminé que. Déterminer trois choses. Qu'il s'agisse d'un bon ou mensonge. Tous les mensonges sont des péchés et constituent une grande menace pour la société. La pensée est l'essence de l'être humain. Et ce qui est dit est l'expression des pensées des gens. Le mensonge détourne les pensées de l'homme et il peut donc détruire l'existence d'un peuple. Aristote croit que trois choses aussi. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Une fois le mensonge découvert, le sage sera discrédité et personne ne le croira à nouveau. Quand on essaie de réparer un mensonge afin de regagner la confiance de quelqu'un, on doit utiliser un nouveau mensonge. Et finalement, on doit continuellement créer une série de mensonges. Martin Luther, dans ses quatre affirmations, a déclaré ainsi, Christ seul, seule la Bible, seule la foi, seule la grâce. Et c'est ainsi qu'aucun mensonge ne peut se mener à la vérité. Aucun mensonge ne peut se mener à la vérité. Dans son livre sur le mensonge, Augustin divise les mensonges en 8 catégories. Il réside dans les missions religieuses. Vous comprenez premier point? Ah non, oui. Oh Seigneur, je fais de grandes choses pour toi. Je vais faire la mission au Sénégal. Je fais la mission à Tours. Voilà, je fais la mission de la semaine. Regarde, j'invite des frères et sœurs. Voilà, je suis fidèle pour toi, mes frères et sœurs. Vous me voyez? Je suis quelqu'un de très engagé au Seigneur. En fait, au fond du cœur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Des fois, je méfie moi-même. Je fais très attention à moi. Je fais la mission au Sénégal. Je fais, pour gagner la confiance à l'assemblée, pour que les gens ils me connaissent. Oh, pasteur Nguyen, oh là là, super. Non. J'ai pas besoin de ça. Seigneur, il me voit. Voilà. Il réside dans les missions religieuses. Voilà. Je dois dire ça. Les mensonges nuisibles à tous. Un mensonge qui est bon pour quelqu'un est nuisible pour les autres. Les mensonges pour se faire plaisir à soi-même. Des fois, on sent les mensonges pour faire plaisir soi-même. Mais le contenu, ça peut rien dire. Cinquième, pour faire plaisir aux autres dans la conversation. Les mensonges pour apporter des avantages matériel à quelqu'un sans blesser les autres. Les mensonges pour apporter des avantages spirituels à quelqu'un mais ne pas blesser les autres. Les mensonges pour protéger quelqu'un dans la souffrance physique. Des fois, je visite à l'hôpital. Plusieurs fois, je fasse les frères et sœurs qui sont dans la situation de sans conscience. Ils sont dans le coma. Je veux pas dire que, oh, mon frère, tu vas recevoir la grâce du Seigneur. Voilà, je prie pour toi. Tu vas guérir, mon frère. Assure-toi. Non. Je dis pas comme ça. Je dis la vérité, mes frères. Tu sais, le docteur m'a dit que tu peux pas guérir. Tu vas mourir, mon frère. Si Seigneur qui te parlait, suis-moi. Donc tu vas lui suivre avec la paix. N'essaie pas de avoir la tristesse, c'est la joie. Le mensonge pour protéger quelqu'un de la souffrance physique, même si bien, mais il reste toujours un mensonge. Que Seigneur nous aide. Comment distinguer les choses? On a vraiment besoin de la sagesse. Voilà, conclusion. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons le faire en toute honnêteté et sincérité. Vous parlez à Dieu avec N'essayez pas de lui donner l'impression que tout va bien. En réalité, vous êtes en colère. Vous êtes déprimé. Ou encore vous êtes confus. Il ne sera pas en passé. Dieu est notre Père céleste. Il désire que nous partagions tout avec lui d'un cœur sincère. Si nous désirons grandir dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à faire preuve d'une authenticité absolue. Ceci est vrai tant dans notre relation avec Dieu que dans nos relations interpersonnelles. Nous devons savoir communiquer avec les autres en toute franchise. Nous avons une tendance naturelle à nous cacher des autres. Nous avons souvent l'impression de ne pas avoir la possibilité d'exprimer la vérité. Chacun a ses raisons personnelles. Alors nous commençons à utiliser les arguments de la diplomatie avec nos semblables. Nous prenons soin de garder nos distances pour éviter qu'on nous fasse du mal. Dieu ne peut pas agir en nous lorsque nous affichons une telle attitude. Utiliser des prétextes ne nous amène qu'à détruire les relations. Si Dieu veut transformer son Église, l'authenticité doit caractériser la communication entre les membres de la communauté chrétienne. Car lorsque nous partageons la vérité, lorsque nous exprimons avec amour et sincérité nos pensées et nos sentiments, nous promettons aux gens de s'approcher de nous et à mesure que nous grandissons ensemble, en maturité et en unité d'esprit, la vérité va inévitablement être partagée entre nous. J'ai une expérience une expérience dans l'obstacle. Quand je voulais encourager un frère, une sœur de décider de prendre une décision, j'ai deux choix, entre deux choix. Est-ce que je dois dire la vérité ou pas? Si je dis la vérité, j'ai peur de perte, la perte, de le perdre. Si je ne dis pas la vérité, peut-être je peux le, la garder. Un pasteur, son ministère, un pasteur, c'est difficile. À la finale, finalement, j'ai choisi de dire la vérité. J'ai réfléchi beaucoup. Même le soir, je ne dors pas. Je dois dire oui, oui ou non, non. Finalement, j'ai trouvé la réponse. Je dois dire oui. Double oui. Parce que soit je dis oui, oui, je dis non, non. Il va quitter l'église. Il va quitter l'église. Pourquoi? Je dois dire non. Nous devons avoir un cœur honnête dans la communication entre les membres de l'église. Si nous disons oui, il ne faut pas dire non. N'ayons pas de soupçons les uns envers les autres. N'ayons pas de soupçons les uns envers les autres. J'aime bien ce mot. Et nous éviterons ainsi d'accumuler des malentendus. Traitons-nous les uns les autres avec intégrité. Construisons le corps de Christ et soyons un bon témoin du royaume des cieux. Prions ensemble. Et merci Seigneur que c'est pour que ta parole. Merci ta présence avec nous cet après-midi pour que chacun qui puisse réfléchir au fond du cœur quelle est ta volonté, quelles sont les choses que Seigneur que tu veux qu'on fasse. Bénis cette assemblée, bénis dans l'église. Pour marcher ensemble dans la lumière du Seigneur, on doit faire face soi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.